capitale fédérale américaine, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Merci à tous d'être avec nous. Alors, René, le président Biden veut réglementer les armes fantômes. Alors, comment l'administration va-t-elle s'y prendre, sachant que c'est déjà même difficile avec les armes estampillées, avec des numéros de série?
Oui, en fait, ce sont les deux principales mesures. Il pense qu'il va falloir demander aux fabricants de mettre des numéros de série sur certaines des parties qui permettent au fond de tracer l'origine d'acquisition de ce type d'armes, premièrement. Et deuxièmement, soumettre les acquéreurs à ce qu'on appelle un background check, donc jeter un coup d'œil, en fait plus que jeter un coup d'œil, s'intéresser au background des acquéreurs. Donc voilà les deux principales mesures et qui pourraient effectivement, en tout cas selon plusieurs experts, jouer un rôle important dans le contrôle, en tout cas au moins l'identification des personnes qui sont détentrices de ces armes.
D'accord. Alors Jean-François Seznec, la vente des kits d'assemblage a explosé ces dernières années sur Internet. Le président Biden a même montré devant les caméras la facilité avec laquelle on pouvait assembler ces armes. Alors avec un business aussi florissant, est-ce qu'il sera facile de réglementer la vente de ces armes fantômes?
Non, ça va être très compliqué parce qu'en plus ces armes peuvent venir, enfin ces kits peuvent venir de n'importe où, de n'importe quel pays en fait, être envoyés par la poste, sur FedEx. Il y a vraiment beaucoup de facilités. Je pense que ça va être très difficile de limiter vraiment la vente de ce genre d'armes. J'avoue que c'est assez déprimant, mais je ne vois pas vraiment comment n'importe quelle loi fera vraiment un gros effort, réussira vraiment à limiter les ventes.
Alors, Herman Cohen, déprimant, comme l'a dit Jean-François Seznec. Alors, Eric Adams, qui est le maire de la ville de New York, où ces ghost guns circulent beaucoup, il a salué la décision du président Biden, mais sa position est loin d'être partagée par les républicains. Alors, pour vous, même avec le deuxième amendement, ne devrait-on pas quand même identifier les armes qui circulent, même avec...
Bien sûr, s'il y a un crime, par exemple, si on trouve l'arme qui était utilisée, on peut trouver la personne qui a acheté cette arme. C'est fondamental. Et ce n'est pas une violation de droit d'avoir une arme chez vous. C'est fondamental de dire qui a fait ce crime, n'est-ce pas? Et je crois que même les gens qui sont le plus conservateurs, qui ne veulent pas des lois contre les armes, doivent accepter ça. C'est ridicule de ne pas accepter ça.
Beaucoup pensent que c'est un risque pour le public, mais René Lec, au-delà des clivages politiques et idéologiques, pourquoi, selon vous, la question des ghost guns est vue différemment selon qu'on est maire de New York ou de Detroit, ou qu'on est élu d'une ville, d'une ville du sud du pays?
Oui, bon, écoutez, c'est essentiellement des questions d'ordre politique. Bon, il faut quand même noter qu'il semblerait, bien que je n'ai pas vu de chiffres très précis, que ce type d'armes circule plus en zone urbaine qu'en zone rurale. En zone rurale, vous me direz, l'accès à des armes, normales, ordinaires, traditionnelles, est en général beaucoup plus facile. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une question d'ordre politique, comme... vous le savez, les pays du sud, les États du Sud sont plus conservateurs, sont plus sensibles à cette question de la détention d'armes. Alors c'est à la fois les pays du Sud, mais aussi ce qu'on appelle un peu les États qui sont dans l'interline des États-Unis.
Et Jean-François Seznec, selon l'organisation Gun Violence Archive, il y a plus de 120 fusillades déjà aux États-Unis depuis le début de l'année et plus de 11 700 morts si on compte les suicides. Ces chiffres ne devraient-ils pas pousser à l'action au moins sur cette question des armes fantômes?
Ça devrait pousser à l'action certainement, mais malheureusement ça ne le fait pas parce que il y a une telle controverse dans le pays sur le sujet des armes en général et que n'importe quel effort pour limiter quelle que soit l'arme, les armes en question, est très très critiqué des deux bords. D'un côté, les libéraux voudraient des formes, les plus extrêmes des libéraux, si vous voulez, voudraient des formes de contrôle beaucoup plus importantes, et les conservateurs, les plus conservateurs, voudraient encore moins de contrôle. Donc, c'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit là-dessus. Mmh. Et il y a vraiment pas grand-chose. J'avoue que je reste très, très bouche bée, si vous voulez, devant les efforts qu'ils ont faits, parce que je vois mal comment, vu la situation politique en ce moment dans le pays, on puisse obtenir quoi que ce soit.
Alors, Herman Cohen, les défenseurs du deuxième amendement, comme la NRA, disent qu'une personne armée est moins susceptible d'être victime d'une attaque à main armée. Comment est-ce que vous comprenez cet argument?
C'est plus ou moins vrai, n'est-ce pas? Si vous avez une arme chez vous, et si quelqu'un essaie d'entrer dans votre maison, si c'est un voleur ou une autre personne, un méchant, on peut toujours utiliser l'arme. C'est très logique, ça, n'est-ce pas?
Mm-hmm. Alors, c'est quelque chose que vous soutenez, en fait?
Moi, j'accepte le deuxième amendement. Mm-hmm. Le deuxième amendement aussi parle d'une milice bien réglementée. Mm-hmm. C'est-à-dire, les gens ont le droit d'avoir des armes chez eux, mais le gouvernement a le droit de réglementer ça. C'est pourquoi dans la loi maintenant, avant d'acheter une arme, le vendeur doit téléphoner au FBI pour savoir si vous êtes un ancien criminel, par exemple. Il y a d'autres raisons de ne pas vendre cette arme. Je crois que c'est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas?
Oui, justement, René, que pensez-vous de cet argument du bon gars avec une arme contre le mauvais gars avec une arme?
Écoutez, moi, je crois que, comme souvent, quand on est un peu perdu, comme disait tout à l'heure Jean-François, il faut regarder les chiffres, il faut interroger la science, entre guillemets, puisque les statistiques sont des éléments fondateurs de la science. Aux États-Unis, 80% des homicides sont commis avec des armes à feu à Blair Mann, contre 4% en Angleterre. Donc, et si on compare par rapport à d'autres pays, je crois que le Canada c'est 34, la Finlande 32. Donc, les différences sont énormes et c'est essentiellement lié aux questions d'ordre politique et juridique par rapport à la question de la détention, du droit à la détention d'armes. Donc moi, je crois que il y a là quelque chose qu'il faudrait absolument changer, mais ça fait quoi? Ça fait plus de 3 décennies qu'on en parle et absolument rien ne bouge.
Et Jean-François Seznec, il y a dans l'opinion, en fait, ces gens qui disent que quand même avec un fusil d'assaut comme les AR-15, ce n'est pas forcément pour se défendre ou pour aller à la chasse. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
c'est pas vraiment fait pour aller à la chasse, ça c'est sûr. Mais non, je pense que c'est un problème qui remonte en fait beaucoup plus loin que ça. Ça remonte à la Révolution américaine où les gens pensaient qu'ils avaient le droit, non seulement le droit, mais le devoir d'avoir des armes pour imposer la liberté au pays, pardon. Et ça n'a pas changé. Et c'est devenu une sorte de problème politique maintenant, mais l'idée de base, c'était que quelqu'un avec une arme a le droit, en fait, de se défendre contre les interventions du gouvernement. Et je pense que c'est ça l'idée fondamentale, c'est que apparemment des armes vous permettraient de vous révolter contre un gouvernement qui deviendrait trop autoritaire. Or, c'est l'idée des conservateurs en ce moment, et enfin, c'est ce qu'il pousse comme idée générale, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui peut amener à la partition du pays. C'est un peu une des causes de la fondamentale de la guerre civile il y a 120 ans, mais c'est quelque chose qui n'est pas très difficilement résoluble ici.
Et Herman Cohen, avant d'aller au commentaire Facebook, est-ce que cette crainte, elle est aujourd'hui justifiée que le gouvernement abuse de ses droits et qui justifierait que les gens puissent s'armer et faire face au gouvernement?
Non, je ne sais pas, ce n'est pas justifié. Je crois que ce que les conservateurs pensent et disent, c'est que si vous ouvrez la porte au gouvernement de réglementer les armes, après, ils vont interdire tout arme, n'est-ce pas? Et les gens qui veulent avoir des armes chez eux pour protection de leur famille, ils ont peur que le gouvernement va enlever toute arme, n'est-ce pas?
Que le gouvernement en abuse, hein?
Donc, ils disent, nous sommes contre toute loi qui interdise quoi que ce soit. Et c'est ridicule parce que, comme notre collègue a déjà dit, en Angleterre, les armes sont interdites et il y a beaucoup moins de bois, par exemple. Donc, je suis pour des réglementations très sévères des armes.
D'accord, merci beaucoup. Alors voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan, il écrit « Ce ne sont pas les nombreuses fusillades qui pousseront les Américains à interdire le port des armes à feu, c'est au moyen de défense contre les agressions. Le Congrès et la Maison-Blanche pourront s'accorder sur l'encadrement du port des armes à feu aux États-Unis, comme la vente des armes légères aux personnes majeur et jouissant d'une bonne santé mentale. » Et puis Archiduc Théodore est à N'Djamena, il écrit « Il sera difficile pour que le Congrès et la Maison-Blanche s'entendent sur la question des armes à feu, puisque la vente des armes génère beaucoup de recettes dans l'économie américaine sous le prétexte de l'autodéfense. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. C'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, économiste Atlantic Council, également analyste politique. À Washington, René Lec, analyste politique et toujours dans la capitale fédérale. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines. Alors René, Tom Cotton, qui est un sénateur républicain de l'Arkansas, a réagit disant que les régulations ne font que compliquer l'accès aux armes de citoyens respectueux des lois. Alors, ça repose un peu la question de, disons, la crainte des conservateurs d'une régulation excessive, mais est-ce qu'on peut faire bouger les lignes au Congrès, même au moins sur cette question des armes fantômes?
Écoutez, sur la question des armes fantômes, moi je pense qu'on ne peut pas la séparer de la question des armes de manière générale, hein, comme l'ont souligné tout à l'heure Herman et Jean et Jean-François. Je crois que les deux sont totalement, sont complètement liés. Et comme je disais, on a passé plus de 3 décennies qu'on est sur ce dossier. Et vous savez, les tueries de masse aux États-Unis, vous l'avez même indiqué tout à l'heure, il y en a plus de 120 depuis le début de cette année. Ça fait 40 tueries de masse par mois. Donc les chiffres sont énormes et ça n'a pas fait bouger les choses. Il y a eu des tueries de masse beaucoup plus importantes. Il y en a eu quelques-unes cette année, mais il y en a eu beaucoup plus importantes les années passées avec des dizaines et dizaines de morts. Il y en a eu même où il y a eu des morts d'enfants dans des écoles et tout. Mais malgré tout, on n'arrive pas à obtenir un consensus politique, y compris sur des questions sur lesquelles l'opinion publique américaine est totalement favorable. À plus de 80%, les Américains sont d'accord pour que le background check soit généralisé.
Mais est-ce que vous comprenez un peu l'argument des conservateurs qui craignent un peu une régulation excessive, encore une fois, la question du gouvernement qui s'implique dans les affaires des citoyens?
Oui, écoutez, vous savez, le gouvernement s'implique dans la régulation du trafic automobile. Il faut un permis de conduire pour pouvoir conduire. Il y a des tas de domaines dans lesquels le gouvernement s'implique et est impliqué. Et je pense qu'il n'y a aucune raison que les armes y échappent. Maintenant, ceci dit, Abdul Rahman, pour aller un peu dans votre sens, il est sûr que pour quelqu'un qui connaît bien les États-Unis, c'est le continent des grands espaces, hein. Si vous allez dans certains endroits et que vous avez une maison et que la maison suivante, elle est à 20 km et que le prochain poste de police, il est à 50 km, il est évident que si vous n'êtes pas armé, vous mettez votre vie et celle de votre famille en danger. Donc, il y a peut-être quelque chose il y a certains aspects spécifiques aux États-Unis et notamment au monde rural à prendre en considération. Je n'en doute pas.
D'accord, Jean-François Sesnec, est-ce que finalement ce n'est pas juste un vœu pieux pour Biden, puisque le décret qu'il a signé ne peut pas avoir un peu la même force qu'une loi qui est votée au Congrès, par exemple?
Oui, c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est une très bonne façon de le dire, c'est un vœu pieux. Je ne pense pas que ça amènera beaucoup de changements. J'ai une petite chose que j'aimerais peut-être dire quand même, c'est que quelqu'un de vos correspondants en Afrique a dit que c'était en fait une question de profit des compagnies d'armes, mais il faut aussi se rappeler...
Un téléspectateur, oui.
Oui, que c'est... une grande partie des armes vendues aux États-Unis ne sont pas fabriquées aux États-Unis, elles sont fabriquées en Europe et vendues par Beretta et d'autres gens comme ça, et elles ont des marchés très importants. Donc ce n'est pas uniquement une question de profit.
De profit.
En plus, les ghost guns dont vous parlez, ça vient de toute petite compagnie, ça vient de n'importe où, vous achetez des plans et donc c'est en fait en concurrence avec les grandes compagnies qui vendent les armes. Et il va y avoir une bagarre, si vous voulez, commerciale entre les petits fabricants qui vendront pour pas cher des armes à fabriquer chez soi et puis les grandes compagnies qui fabriquent eux-mêmes des armes soit aux États-Unis, soit en Europe.
Donc, si je vous comprends bien, en tant qu'économiste, cet argument commercial dont certains parlent souvent pour justifier pourquoi autant d'armes circulent aux États-Unis, c'est plutôt un mythe pour vous, non?
Ah oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est tout à fait un mythe. Comme l'a dit René, l'idée, c'est que les gens veulent se protéger et c'est ça qui vraiment compte le plus.
Herman Cohen, est-ce que selon vous, la question des armes à feu sera un grand sujet lors des primaires et des élections de mi-mandat de novembre, lorsqu'on a d'autres questions brûlantes aussi, hein, comme l'inflation ou la guerre en Ukraine?
Je crois que ce ne serait pas du tout un sujet de discussion pour l'élection prochaine. Comme vous dites, la question d'inflation, c'est le plus important maintenant. Parce que les gens vont acheter les choses pour manger, pour nourrir leur famille. Ils voient que les prix ont augmenté 8% sur l'année dernière. Donc, la question d'armes à feu est très, très loin derrière comme importance. Mais j'ai une autre chose à dire sur ce sujet. Le lobby le plus important en faveur des armes, c'est le National Rifle Association, qui travaille pour les fabricants d'armes. Mais cette association est en difficulté maintenant. Ils étaient traduits en justice par les gens qui demandent l'argent mon enfant a été tué dans l'école avec des armes. Donc, je demande que vous payiez. Et aussi, l'association a très peu d'argent maintenant. Et c'est une question de peut-être aller vers la banqueroute. Donc, ça, c'est très important.
Justement.
Si l'association devient moins importante, ce sera plus facile de réglementer les armes.
Donc, pour vous, l'affaiblissement de la NRA peut favoriser un peu le débat au Congrès, ça peut faire bouger les lignes, c'est ça?
À mon avis, oui.
Alors, René, les démocrates avaient promis de faire de la question des armes à feu une priorité, hein, 2 ans après l'élection de Biden, un contrôle du Congrès par les démocrates, même avec une courte majorité. Vous pensez qu'ils ont fait assez, surtout par rapport à leurs électeurs de gauche?
Oui, écoutez, Abdourahmane, c'est difficile de répondre à la question parce qu'on est dans une situation tellement exceptionnelle avec la pandémie. Qui est là depuis plus de 2 ans maintenant. Donc les priorités de l'administration Biden étaient tout autres. Hein. C'était lié à la question économique liée à la pandémie. C'était la question de la guerre en Afghanistan. Ensuite, ça a été la relance économique, la question des infrastructures à la fois matérielles et humaines qui ne sont pas encore passées, entre parenthèses. Et maintenant, la guerre en Ukraine. Donc les priorités de l'administration Biden, des démocrates, sont vraiment ailleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec Herman. Je ne pense pas que cette question des armes à feu va être centrale à la campagne qui s'annonce dans les mois qui arrivent.
Mais Jean-François Cesnec, on a vu que, par exemple, pour la fusillade de New York cette semaine, on a vu quelques républicains qui ont déjà blâmé certains démocrates, notamment Alexandre Ocasio-Cortez, sur sa position en disant que c'est parce qu'elle pousse un peu pour un allègement des mesures de sécurité qu'on en est arrivé là. Malgré tout ça, ça ne sera pas un grand sujet politique pour ces élections.
Je suis d'accord avec mes collègues ici. Je pense que ça ne va pas vraiment. C'est quelque chose qu'on oublie très rapidement aux États-Unis, apparemment, puisque chaque fois qu'on a une nouvelle crise d'armes à feu, on oublie au bout d'une semaine. Donc, je ne pense pas effectivement que c'est une grosse importance parce que c'est un sujet trop difficile pour chaque candidat localement. C'est vraiment des questions locales, ça. Et je vois mal vraiment que ça ait, à moins qu'il y ait vraiment un massacre de masse énorme, je vois vraiment mal comment ça pourrait devenir un sujet vital pour les élections qui viennent.
Est-ce que cela veut dire, Herman Cohen, que même le public a un peu abandonné, peut-être trop fort, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau du Congrès, est-ce que ce n'est pas un sentiment d'abandon, finalement?
Je crois qu'en général, les gens disent qu'il n'y a rien à faire, vraiment.
Ou d'impuissance, oui.
Oui, impuissance. Donc, il faut regarder surtout l'inflation et la pandémie qui maintenant commence à être plus grave. Il y a de plus en plus de nouveaux cas qui arrivent. Donc la question d'armes à feu, ce sera zéro cette année.
En tout cas, merci beaucoup à tous mes invités. Nous arrivons à la fin de ce Washington Forum. Je remercie également tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.